Radio Okapi. Journal présenté par Grace Hamzati Massamouzi.
Au sommaire de ce journal, plus de 170 ex-combattants réinsérés dans leur communauté locale avec 108 armes remises au FRDC et plus de 800 enfants sortis des groupes armés. C'est en tout cas le bilan des actions du bureau provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation depuis son installation en mai 2022 à Ituri. Dans la province du Congo central, l'insécurité avec les incursions des miliciens Mobondo dans les territoires de Kimvula, le phénomène coupeur de route, le phénomène Kuluna ainsi que les embouteillages sont autant des problèmes qui affectent les droits de l'homme dans cette province. C'est ce que dénoncent les organisations de défense des droits de l'homme à l'occasion du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Notre invité est Jean-Didier Mbeyi Bosimi, le coordonnateur du programme national de développement agricole appuyé par la Banque mondiale. Ce projet de 300 millions de dollars a mis en place le registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole face aux risques récurrents. Bonjour à tous. À Ituri, pour commencer, 174 ex-combattants sont réinsérés dans leur communauté locale avec 108 armes remises au FRDC et plus de 2400 munitions et plus de 800 enfants sortis des groupes armés. C'est le bilan des actions du bureau provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation depuis son installation en mai 2022. C'est là grâce aux efforts du gouvernement et d'autres partenaires des mises en œuvre dans ce secteur. C'est le coordonnateur intérimaire qui a dressé ce bilan mercredi au cours d'un café de presse à Bounia. Fleury Kitoko sollicite l'implication de tous pour le désarmement d'environ 20 000 autres miliciens des différents groupes armés qui traînent encore les pas. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Il y a eu 174 démobilisés qui étaient déjà désarmés, démobilisés, pris en charge. Et au moment où nous parlons, tous sont rentrés dans la communauté. Ils étaient très bien reçus par la communauté. Maintenant, c'est à nous, le programme et les partenaires, de les rejoindre. Je donne un exemple avec la STARES. Il y a des routes, il y a des centres de santé, les écoles déjà identifiées. Parce que STARES a amené des projets, a amené des moyens. Les 174, c'est un échantillon où les jeunes gens ont pris la décision d'arrêter. Ne traînez pas les pas, que les groupes armés puissent arrêter. Et laisser la communauté dans la paix pour développer. On demande de déposer des armes, mais les gens tuent encore. De 2017 à 2024, 5 ans de violence. Le retour, qu'est-ce que nous avons gagné? On a détruit. Maintenant, nous commençons à demander aux partenaires à amener l'argent, donnez-nous des moyens pour qu'on puisse résoudre les problèmes que nous-mêmes nous avons créés.
Toujours à Ituri, dans le territoire des Djougou, des centaines d'agriculteurs accèdent à leurs champs grâce à l'accompagnement des casquets bleus bangladais de la MONUSCO dans le cadre de l'opération Secure Harvest. Lancée en septembre dernier, cette opération, qui a son troisième renouvellement, va se clôturer le 31 décembre prochain. Elle vise non seulement à protéger les déplacés dans les différents sites, mais elle permet aussi aux paysans d'accéder à leurs champs pour une récolte sécurisée de leurs produits. C'est un reportage dans l'Hélicota.
C'est une opération qui consiste à sécuriser les paysans et leurs récoltes dans différents territoires de la province de l'Ituri. Ici à Bahema Nord, en territoire de Djougou, le contingent bangladais organise des patrouilles dans les zones où les populations cultivent leurs champs. Depuis le matin, Kabungalu Eme hésitait à se rendre à son champ de manioc dans le village d'Indro, situé à 12 km de la base des casques bleus bangladais. Comme lui, plusieurs habitants du milieu, parmi lesquels des déplacés internes, n'ont que les activités champêtres comme principale activité qu'ils leur permettrait de se prendre en charge. L'opération Secure Harvest, mise en œuvre par la force de la MONUSCO en Ituri, est venue rendre cela possible par des patrouilles pour protéger les vies des paysans et leurs récoltes contre les attaques de groupes armés qui les visent dans les champs. Ces actions de casques bleus, combinées au réseau d'alerte communautaire, impliquent la population dans sa propre protection, telle que l'explique Dedna Djaba Germain de la société civile de Dendro.
Et même au cas où il y a des menaces de la part des éléments de la Côte d'Ivoire, nous faisons l'alerte fréquence de la MONUSCO.
Lancé pour 4 mois en Ituri, l'opération Secure Harvest est censée arriver à terme le 31 décembre de cette année. Depuis Dendro à Bahema Nord en territoire de Djougou, Alain Likota, Radio Okapi.
Direction Benio Nord Kivu, au quartier Mambango, le mariage civilo-militaire reste un défi majeur. Les habitants accusent les militaires du camp local de tracasseries, notamment des vols dans les champs, des actes d'intimidation et d'insécurité. Malgré des dénonciations répétées auprès des autorités, la situation persiste, exacerbant la méfiance des civils envers les forces armées. Le chef de quartier, Jean-Baptiste Kamabali Rissasi, décrit l'ampleur du problème au micro de Guylaine Kassassia.
La sécurité est causée ici par des militaires qui sont au camp militaire de Mambango. La population n'a pas toute la liberté d'aller dans ces champs. Si une fois on va dans ce champ, des fois des militaires ravissent leurs produits champêtres. À chaque passage d'un agriculteur, ces militaires récupèrent une quantité de ce qu'on ramène du champ à la position qui mène vers Manzolé. Ils coupent même les bois de la population pour fabriquer de la braise. Nous avons déjà informé plusieurs fois les autorités militaires, mais sans suite favorable. Tantôt ils ravissent même les téléphones des agriculteurs. Lorsqu'on gère des militaires, ça leur donnait à manger, c'est un problème. Au début de la semaine, certains patrouilleurs ont causé des troubles ici, au quartier, sous prétexte qu'ils cherchent de l'argent pour bien passer les festivités des fêtes d'année avec leur famille. Ici, chez nous, à Mambango, le mariage civilo-militaire n'existait pas, peut-être ailleurs. La population craint la tombée de la nuit, et même la journée, ce sont des tracasseries dans les champs. En tout cas, ces camps militaires insécurisent les quartiers. Nous ne cesserons jamais de les dénoncer.
Contacté, le colonel Teddy Mpoui, chargé du service d'éducation civique, patriotique et action sociale de l'armée à Beni, dit être saisi de cette situation. Il promet de projeter des séances de sensibilisation qui incluront les militaires, les recrues ainsi que les chefs des bases locaux pour maintenir le mariage civilo-militaire. Restons dans la zone. La région des Mabala-Kokantine devient de plus en plus dangereuse pour les humanitaires qui peinent à apporter une aide aux populations victimes de l'insécurité. Des jeunes, des mouvements citoyens, des groupes de pression et même des groupes armés leur interdisent l'accès pour assister les déplacés. Face à cette situation, les autorités administratives locales entendent sensibiliser davantage ces jeunes pour rétablir la confiance entre eux et la communauté humanitaire. Marc et Marofimo nous en dit plus.
Les exemples les plus récents remontent au mois de novembre. Un convoi humanitaire en route de Mabalako vers Kantine a été contraint de rebrousser chemin quand un groupe armé lui a barré la route. Quelques jours plus tard, une équipe d'évaluation des Starest a connu le même sort. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial des Starest, témoigne cette situation.
Aujourd'hui, à Mabalako jusqu'à Kantine, les populations souffrent. Pourquoi? Parce que nous avons chassé tous les humanitaires, même l'agent de développement, même nous aussi nous avons bien avec. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intoxication et cela est en train de nuire aux populations.
Cette situation inquiète profondément les autorités administratives locales qui ont lancé une série de campagnes de sensibilisation pour faire comprendre aux jeunes l'importance de l'aide humanitaire dans cette région où des milliers de ménages sont déplacés. Déborah Nyoni, secrétaire administrative du groupement des Bassom, a dit et nous explique les efforts en cours.
On avait beaucoup de jeunes qui se sont déjà enregistrés dans les groupes de pression, dans les groupes armés. Aujourd'hui, nos jeunes sont dans les entités, dans la communauté. Ils exercent de métiers.
Il convient de rappeler qu'après les récentes attaques des ADF dans la partie ouest du groupement de Bassom Adiwe, où plus de 70 civils ont été tués, les besoins humanitaires sont de plus en plus pressants. Plusieurs ménages n'ont toujours pas regagné leur village et localité d'origine. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À l'occasion du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée chaque le 10 décembre, les membres de la Fédération des organisations non gouvernementales des droits de l'homme du Congo central ont organisé mercredi une matinée de réflexion sur les différents problèmes qui empiètent les droits de l'homme dans cette province. Ces défenseurs des droits de l'homme relèvent parmi ces problèmes, notamment ceux liés à l'insécurité avec les incursions des miliciens Mobondo dans les territoires de Kimvula, le phénomène coupeur des routes et Kuluna, ainsi que celui lié aux embouteillages. Ces défenseurs des droits de l'homme ont formulé quelques recommandations pour remédier à ces problèmes. Leur déclaration est lue par le coordonnateur provincial de cette structure, Maître Géry Kole Massiala. On l'écoute au micro de Nana Plurich Mambo.
Les membres de la Fédération des organisations non gouvernementales des droits de l'homme du Congo central recommandent ce qui suit. Pour les problèmes de la sécurité liés au phénomène Mobondo, qu'il plaise au gouvernement de la République d'étendre l'opération militaire organisée dans la province du Kwango, Kwilu et Maïndombe, jusqu'au Congo central, principalement en territoire de Kivula et Madimba. Pour la situation des coupés des routes sur la route nationale numéro 1, qu'il plaise au gouvernement provincial du Congo central d'intensifier l'opération de la sécurisation de la route nationale numéro 1, en implantant au moins 4 postes de sécurité avec véhicules d'intervention et numéros verts affichés devant les différents postes.
Ce journal se poursuit 8h10 dans ce studio de Radio Kapi. Revenons un instant au Nord Kivu où la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres a pris fin mardi dernier à Beni. Les organisations féminines locales qui s'étaient investies dans la sensibilisation de la communauté expriment une satisfaction générale. Toutefois, elle souligne que le travail à accomplir reste énorme, notamment ce qui concerne la dénonciation des cas par les victimes. C'est ce qu'explique Ange Maliro, chargé de communication de l'organisation féminine Tendolaro, au micro de Marc et Marofimbo.
Par rapport à nos objectifs, nous, on les a atteints. L'essentiel a été fait. Et nous avons vu les feedbacks directement. Il y a encore du travail à faire parce que par rapport à notre sujet local, des 16 jours que nous avions, c'était une sonou pour briser le silence. Vraiment, le silence doit être brisé dans notre milieu parce que jusque là, on ne s'est pas dénoncé. Il y a les camps qui sont dans la communauté parce que par rapport à tout ce que nous avons expliqué, les gens se sont retrouvés, donc ils sont victimes. Et maintenant, comment dénoncer? Certains gens qui ont pu dénoncer, ils n'ont pas eu gain de choses. Parfois, ça a créé des conflits et parfois des mésententes dans les quartiers et ça attire beaucoup de problèmes et des conflits. Et les autres se donnent un confort, même dans ces violences. Et nous, nous avons associé aussi la police dans notre élite pour qu'ils puissent nous aider à briser ce silence.
Ici, à Kinshasa, un atelier de réflexion et de partage d'expérience s'est ouvert mercredi sur le mécanisme national de prévention de la torture. Cet atelier est organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, en collaboration avec ses partenaires. Il est question pour le BCNUDH de faciliter un échange entre les parties prenantes en vue d'appuyer l'État congolais dans la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture conforme aux standards internationaux. Maître Henri Wembelua, président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, explique ici l'importance pour la RDC d'avoir son propre mécanisme national de prévention de la torture. Il est au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Cet échange est très important parce qu'il nous permet aujourd'hui d'avoir des informations précises sur les exigences du Comité des Nations Unies contre la torture s'agissant des MNP, Mécanisme National de Prévention de la Torture. D'abord, c'est une obligation de l'État, sur le plan international, d'avoir ce mécanisme qui a le droit de faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. Cela avec un rôle de prévention de la torture et de traitement inhumain. Et ce mécanisme attendu devrait avoir une certaine indépendance dans l'exercice de sa mission aux recommandations des organes internationaux. Le mécanisme doit être créé par une loi. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas un mécanisme créé par une loi.
Notez que les travaux de cet atelier de deux jours ont été ouverts par la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Mwavita, en présence du représentant du sous-comité pour la prévention de la torture des Nations Unies. Cette autre nouvelle sur la fréquence de la paix. L'UNICEF remet 84 motos aux zones de santé des provinces de la Tchopo et du Bazouélé. La cérémonie officielle y afférente s'est déroulée mercredi sous la présidence du gouverneur de la province de la Tchopo, Paulin Lendongolia, des membres de son gouvernement ainsi que du directeur des cabinets du ministre de la Santé. Les partenaires techniques et financiers du gouvernement y ont également rehaussé de leur présence. Pour l'UNICEF, l'objectif de cette dotation est de renforcer le système de santé des deux provinces bénéficiaires. N'est-ce pas, Jacques Moukokole?
Cette dotation est une réponse à la demande du ministre de la Santé adressée à l'UNICEF afin de doter les zones de santé de la Tchopo et du Bas-Ouélé des moyens de déplacement pour la supervision des activités de terrain. Le docteur Amédée Prosper Djikoundé, chef de secteur santé de l'UNICEF, espère qu'avec ses engins, les défis de vaccination dans ces entités seront relevés.
À travers toutes ces donations, notre objectif en tant qu'UNICEF est d'améliorer les services de vaccination et de contribuer à la réalisation des objectifs de la couverture sanitaire universelle.
Depuis 5 ans, la descente dans les aires de santé posait problème, faute de moyens de déplacement adéquats, déclarent les médecins chefs des zones de santé. Désormais, finissent ces difficultés, Dr Lolo Ofoidi et Mathieu Bafoa de la Tchopo et de Lubunga.
La mission régalienne, c'est de superviser, c'est de suivre, c'est d'évaluer et de former les aires de santé et même la communauté pour le changement de comportement.
Ça va nous permettre d'être plus proches des établissements de soins de santé.
Pour les directeurs de cabinet du ministre de la Santé, santé, ces engins allègent un tant soit peu les difficultés opérationnelles à condition qu'ils soient utilisés à bon escient. Pour cela, le gouverneur des provinces enjoint la ministre provinciale et l'inspecteur provincial de la santé de veiller à ce que ces engins soient utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Maroc séduit un nombre de touristes record. Il devrait devenir le pays le plus visité d'Afrique en 2024, juste devant l'Égypte. Le royaume chérifien a déjà accueilli près de 16 millions de touristes entre janvier et novembre 2024.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est Jean-Didier Mbeyi Bossimi, coordonnateur du programme national de développement agricole, appuyé par la Banque mondiale, qui a mis en place le registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole face aux risques récurrents. Ce projet de 300 millions de dollars est exécuté d'abord dans quatre provinces, à savoir le Kasaï, le Kasaï central, le Congo central et la province du Kwilu. Il va permettre de stabiliser 3049 kilomètres des routes des dessertes agricoles des 12 territoires de ces provinces. Jean-Didier Mbeyi Bossimi s'entretient avec Richard Junior Kamunga.
Monsieur Jean-Didier Mbeyi Bossimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur national du programme national de développement agricole PNDA. C'est quoi PNDA et quel est son objectif?
Merci. Nous sommes un programme national de développement agricole. C'est un programme du gouvernement sous financement de la Banque mondiale avec un budget de plus ou moins 300 millions de dollars. Notre objectif est d'augmenter, accroître la productivité des petits exploitants agricoles et de leur faciliter l'accès au marché. Je voudrais juste expliquer, quand on parle de productivité, nous mettons un accent sur le sol et puis sur le matériel agricole, donc la semence. Et du côté de l'accès au marché, nous mettons un accent sur le désenclavement des bassins de production que nous avons préalablement identifiés.
Le chef de l'État qui soutient la revanche du sol sur le sous-sol, lors de son adresse à la nation du 11 décembre 2024, il a salué la mise en place du registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole. Votre projet est exécuté dans quatre provinces de la République démocratique du Congo. Peut-on en savoir plus?
Nous saluons effectivement l'honneur que le président alloue au projet PNDA, mais aussi c'est une responsabilité. Le RNA, c'est le registre national des agriculteurs, c'est une innovation. Nous enregistrons les petits exploitants agricoles qui travaillent avec nous. C'est comme un médecin qui a une fiche du malade qu'il est en train de traiter. Nous notons tout ce que nous apportons comme une incitation, comme paquet technique, comme solution aux problèmes des petits exploitants que nous rencontrons dans les différentes provinces dans lesquelles nous travaillons. C'est le registre des agriculteurs. Pour que, quand nous arrivons à la fin du projet, le gouvernement sait qu'est-ce que nous avons fait sur chaque agriculteur qui est connu personnellement, individuellement.
Il se pose un problème sérieux des routes de dessert agricoles en République démocratique du Congo. Avez-vous un volet pour trouver solution dans ces quatre provinces où vous exécutez votre projet?
Nous avons non seulement le désenclavement des bassins de production où nous avons pratiquement 3049 kilomètres à réaliser dans les quatre provinces. Nous disons 3 territoires par province sur x 4, ça vous fait 12 territoires. Les 3049 sont répartis comme suit. 854 kilomètres pour le Kwilu. À Gungu, nous avons 288 kilomètres à désenclaver. À Idiofa, 275 kilomètres à désenclaver. À Bulungu, 291 kilomètres à désenclaver. Nous avons échangé avec le ministre du Développement Rural pour voir l'interaction de nos activités. Il nous a orienté. Notre objectif, c'est relier les routes de dessert agricole vers les routes nationales ou vers les voies navigables. Au Congo central, nous avons 790 km, dont 250 à Lukula, 275 à Luozi et 265 à Sekebanzi. Au Kasaï, nous avons 640 km, dont 232 à Luebo, 152 à Tikapakamonia et 256 à Mweko. Au Kasaï central, nous avons 707 km, dont 260 km pour Dibaya, 201 km pour Demba et 246 pour Luisa.
Ces routes seront réhabilitées de quelle
certaine manière.
Il est vrai que nous devrions faire le cantonnage manuel. Aujourd'hui, avec notre climat, il ne résiste pas. C'est ainsi que pour le projet, nous avons adopté un système de cibler les points chauds que nous devons bétonner. Nous allons faire des bicouches au niveau des points chauds et les restes des routes, nous allons les stabiliser avec les latérites et avec des saignées que nous allons faire en dur.
Est-ce que votre projet se limitera seulement dans les quatre provinces de la RDC?
Le PENDEA est un programme. Donc c'est un programme de 3 phases, dont 5 ans par phase. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre les résultats escomptés de la première phase pour toucher les décideurs et influer sur la décision que nous puissions aller à la phase suivante, c'est-à-dire à la deuxième phase où nous aurons à ajouter 7 provinces. C'est la province d'Ituri, la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu, la province de Tanganyika, du Haut-Katanga, la province du Kasaï Oriental, du Maniema, de Lomami. Quand nous aurons intégré ces provinces, à la dernière phase, nous allons prendre la province de Nord Ubangi et Tchopo et les autres provinces. Nous avons l'objectif d'atteindre plus ou moins 18 provinces sur les 26 que nous avons.
Monsieur Jean de Dieu Mbeyi, merci.
Je vous remercie et nous sommes au service du gouvernement. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.